Marcel et Fabrice avaient rendez-vous avec la branchitude. En cette fin avril follement printanière, le Proust-Circus, une expression du ministre de la Jeunesse et de l'Avenir, d'autant plus maladroite que c'était la première escalité d'un membre du gouvernement, posait son maigre chapiteau à la mairie de Paris. Il allait y rester 6 jours, du mardi 21 au dimanche suivant. La proposition Bobo avait porté ses fruits. Un portrait géant était déployé sur la façade de l'hôtel de ville. Proust s'affichait en majesté sur un site de la République. Si sage. La raie des cheveux presque au milieu, les yeux bienveillants, les ailes du nez fines et charmantes, une moustache plus fine encore, les lèvres roses, le menton à l'ovale parfait. Ce visage surplombait un col cassé, une lavalière crème comme la fleur au revers brillant d'une veste noire. Aucun écrivain n'avait la réputation d'être aussi peu mainstream que Proust. En additionnant ses nouveaux publics, Aristo, Homo, Populo, Prolo, il devenait grand public, sans oublier le Bobo. Les spectateurs, particulièrement attendus dans ce cœur de la capitale, fleuraient bon ce bourgeois bohème du 4e arrondissement. Jonction subtile entre la rive droite, où il se trouvait officiellement, et la gauche, dont il partageait la culture. Mélange de nantis et d'un reste populaire, le quartier était l'antre des professions libérales, des nantis patitrés et des homosexuels. Ceux-là bien disposés à faire de Proust une icône de la bogossitude. Les prestations de Fabrice Pelletier étaient précédées d'un colloque de 2 journées à la mairie du 4e sur le thème « Quel Proust au 21e siècle ?» C'était diablement savant, follement érudit. Une fois digérée la formule convenue selon laquelle l'événement en cours illustrait que tout le monde a été, est ou sera proustien, après les communications ouvrant Proust aux différentes couches de la société française, ce qui n'était qu'une façon académique de prendre acte de l'engouement populaire, les participants recherchèrent le ou les Proust contemporains. Constatant le vide, nul n'osa avancer de nom jusqu'à ce qu'une sommité de l'édition, lecteur chez Flammarion, lâcha celui de Bec Bédé. Et il se fit prestement jeter la pièce, et les muets se félicitèrent de leur silence. Fabrice s'était installé non loin de la mairie. Il est connu que la meilleure cachette est la foule. En l'occurrence, il trichait un peu en choisissant la place des Vosges, que l'adjectif grouillant ne définit pas vraiment. Toujours attaché à son confort et aux belles adresses, il s'était offert la suite Victor Hugo du pavillon de la Reine. Le lieu de ses exploits qu'il gagnait à pied chaque matin était la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Située à l'étage, elle accueillait une scène, toujours un lit et un fauteuil, jouxtant une fenêtre ouverte sur la place, traditionnel rendez-vous festif, de sorte que le récitant pouvait s'y montrer au public du grand écran extérieur, sans abandonner ses auditeurs de l'intérieur. Il n'y avait toujours qu'un seul artiste pour un texte unique. Mais c'était la première fois qu'il avait simultanément 2 cibles à courtiser et à séduire. Pour Sodome et Gomorrhe 2, Fabrice avait prévu 11 séances, 6 le matin à 10 heures, et 5 l'après-midi à 15. La pièce était-ce un mot pertinent pour un lieu vaste comme un hall de gare, pouvait accueillir 600 personnes assises. Le régisseur veilla à ce que l'acoustique du salon et les dispositions du public fussent optimales. La place de l'hôtel de ville pouvait recevoir plusieurs milliers d'individus installés à la bonne franquette. Le public, avisé de ce qui l'attendait par les 5 sessions précédentes, se réjouissait à l'avance d'aller de surprises en délices. Ce mardi matin permettait de renouer avec le héros que l'on avait laissé à Balbec et où, entre des considérations aussi mondaines et familiales que diverses, il joue les donjons en estimant le nombre de filles lui ayant accordé leur frêle faveur. Il arrive à 14, Albertine comprise. Cette comptabilité justifie ce qu'il appelle les grandes fatigues charnelles qui s'ensuivent. Venu au casino avec le docteur Cottard, il y voit Albertine et André E. valser ensemble, ce qui les catalogue. Pour le médecin, elles sont certainement au comble de la jouissance. On ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes l'éprouvent. Et voyez, les leurs se touchent complètement. Dans leur coin, les deux Marseillais s'échangeaient des regards brûlants. Le héros vit cruellement cette volupté entre filles et nourrit tous les soupçons sur ses deux amis eux. L'après-midi fit partager des papotages culturels avec la marquise Douairière de Cambremer, des affres sentimentales sur Albertine et André E, le scandale du commis entretenu par M. Nissim Bernard, et fit faire la connaissance des courrières Marie-Ginette et Céleste Albaret, qui traitent le héros de pauvre ploumissou.